Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Merci Agnès. Les jeunes en France, c'est jusqu'à 25 ans. Ce qu'on appelle jeunes, c'est les 18-25 ans électoralement. Et ils n'ont pas voté hier. 9 jeunes sur 10, je crois que c'est 87% précisément, ne se sont pas rendus aux urnes. Pourquoi ? David est avec nous et il va tenter une explication. Il est étudiant à Sciences Po, ce qui est un profil, disons-le, de jeune particulier, puisque quand on est à Sciences Po, on vote. Et vous avez voté hier, David ?
Oui, j'ai voté hier, dès la première heure d'ailleurs, et je peux vous dire, rien que physiquement, empiriquement, il y avait, les bureaux de vote étaient vides. Ou s'il y avait une présence, c'était vraiment voilà, une certaine catégorie professionnelle, voire de situation, et globalement une classe d'âge assez âgée. Et pour vous dire, je me suis interrogé, étant à Sciences Po, et j'ai fait cette démarche, vraiment, d'aller voir des amis, d'aller voir des connaissances, de poser des questions, car je suis d'abord soucieux de l'état de notre démocratie, et aussi je suis attaché au droit de vote, et j'allais demander à mes amis, à des camarades, s'ils allaient voter, et pourquoi ils votaient, etc. Et c'était toujours les mêmes réponses, en fait, Pascal. Et j'étais assez outré, voire déçu, après 5 ans de quinquennat, de voir que... Bah, les jeunes n'allaient pas voter. Et vrai, 9 jeunes sur 10 qui ne votent pas, c'est terrible. Et les mêmes réponses toujours, vraiment. On ne sait pas à quoi servent ces élections. De toute manière, ça ne changera rien. Le couvre-feu se termine ce soir, j'ai mieux à faire. Ça ne changera rien. Je ne sais même pas qui se présente et à quoi sert mon vote. Donc vraiment, un désintérêt total de la politique, de ses causes, de ses conséquences et vraiment de son essence même. Donc vraiment scandalisé, Pascal.
Non, ben, scandalisé, non, parce que ce qu'il faut, c'est entendre ça. Alors, il y a plusieurs interprétations. Est-ce que vous trouvez, par exemple, que les gens qui vous disent ça, c'est parce que l'offre qui est proposée n'est pas assez large, ne répond pas à leur attente, et que s'il y avait une autre offre, ils se déplaceraient ?
Bah, pour moi, l'offre est suffisamment large. On va de partis ouvriers, travaillistes, à des partis d'extrême droite, en passant par l'extrême gauche. Non, tous les bords politiques et tous les échiquiers politiques représentés à ces élections. La seule chose étant que, à mon avis, c'est pas tant dans le fond que ça pêche, c'est vraiment dans la forme. Et aujourd'hui, surtout les jeunes, on a vraiment l'impression que la réponse politique et la réponse vraiment politicienne avec les candidats, les programmes, on a l'impression que ça ne marche plus, que ça ne sert à rien et que la représentation... d'idées de fond, bah, dans la forme, ne suffit plus. Et que les élections un peu traditionnelles, je pense qu'il y a un sentiment vraiment d'impuissance à la fois de la part de nos élites, qui forcément, étant élus par nous, les électeurs, et par les jeunes, et par tous les citoyens, nous-mêmes sommes impuissants face à ces élections. Donc je pense que oui, l'offre est très large, mais on ne se rend pas compte ou on ne croit plus en le réel pouvoir des politiques à pouvoir faire changer les choses.
J'ai retweeté tout à l'heure, pour tout vous dire, sur Twitter, un propos entre guillemets de Denis Oliven, qui dirige Libération aujourd'hui, et qui a simplement cité Tocqueville, mais j'ai compris qu'il voulait sans doute que la phrase de Tocqueville s'adapte au monde ou à ce qui s'est passé hier. Voilà ce qu'écrivait Tocqueville. « La vie privée est si active dans les temps démocratiques, si agitée, si rempli de désirs, de travaux, qu'il ne reste presque plus d'énergie ni de loisirs aux hommes pour la vie politique. » Et c'est Tocqueville, donc c'est à la fin quand même du 19e. Nous sommes d'accord.
Bien sûr.
C'est pas nouveau. Donc tout ça, c'est intéressant parce que de la démocratie, ce qu'a pu écrire Tocqueville sur nos sociétés démocratiques notamment, bah, ça, voilà, c'est une analyse qui a plus d'un siècle. Merci David,
bien
en
sûr.
Tout cas, vous étiez le
Merci
premier
Pascal.
Auditeur. Ça va être passionnant de vous écouter. Je salue Greg Caranoni. Est-ce que je peux vous demander si vous avez voté ?
Vous pouvez me demander si je suis allé voter, je vous dirai oui. Et puis si toutefois je n'y étais pas allé, je vous répondrai oui quand même, parce que je voudrais pas me faire engueuler.
Vous seriez capable de mentir ? Mais non, mais vous
non, je plaisante, j'y suis allé.
Non, mais c'est vrai que moi j'ai été très frappé, je ne citerai pas de nom bien sûr, mais autour de moi, des gens jeunes ne savaient même pas qu'il y avait une élection régionale. Et si vous leur demandez à quoi sert les régionales, alors là déjà... Là, on part dans des limbes, cher ami.
En tout cas, la bonne nouvelle du jour, c'est que c'est la fête de la musique.
Ben oui, mais alors c'est... Non, c'est pas ça.
Ah.
panem, vous, vous êtes vraiment dans le panem en circenses, quoi, du pain et des jeux. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en est là. Ah, mais c'est-à-dire que si on ne fait plus d'instruction civique, si on n'apprend plus l'histoire, si on ne montre pas l'importance de la politique, bah écoutez, faisons de la télé-réalité. Faisons que ça, panem en circenses. Le peuple s'amuse. Vous voulez pas être sérieux, rouler en trottinette.
Non, mais voilà. Alors, mais attendez, non mais seulement si, je vais voter, mais en plus je me fais engueuler, voilà, mais c'est pas possible.
En trottinette, venez en Bermuda, je veux dire, au travail, et puis soyez en basket tout le temps. C'est voilà, il n'y a plus d'effort.
Eh bien, la semaine s'annonce bien.
Il n'y a plus d'effort, ami. Bon, il est 13h10, c'est la fête de
donc
la musique.
Donc on n'écoutera pas de musique aujourd'hui, c'est
si,
bien noté. Ah,
parce que justement,
vous retournez votre veste directement, très bien.
Et Eric Jean-Jean sera là d'ailleurs, tout à l'heure. Bon. Et on choisira ce qu'on préfère dans la musique classique. Le clavecin, par exemple. Vous aimez le clavecin?
J'adore ça. J'ai longtemps joué du clavecin.
Monteverdi. Moi, j'écoute Monteverdi.
Moi, j'écoute les années 80.
13h10, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
On va être avec Jean-Daniel Lévy dans une seconde, directeur délégué de Harris Interactive France. Et on ne va pas le féliciter, bien évidemment, parce que les sondeurs se sont bien trompés. Mais ça, c'est... Ça arrive. Bonjour, monsieur Lévy.
Bonjour, Pascal.
Laurent.
Bonjour, Pascal. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Une claque démocratique, un record historique d'abstention. 2 électeurs sur 3 n'ont pas été votés pour ce premier tour des régionales et départementales. Est-ce votre cas? Quelles sont les raisons? Louis Alliot, le maire Rassemblement National de Perpignan, était l'invité de RTL ce matin.
Il n'y a pas de visibilité. Ces grandes régions, maintenant, les gens ne savent plus où c'est, où ça commence et où ça se termine. Les départementales noyées au milieu des élections régionales. Je pense que les électeurs, aujourd'hui, sont un peu lassés de tout ce qui se passe.
Sur nos réseaux sociaux, Fabien est très caché. Un message pour tous les abstentionnistes. Désormais, arrêtez de vous plaindre. Où sont tous ces jeunes, lance Bernard, qui pleuraient ces derniers mois? On leur aurait volé leur liberté, leur jeunesse. Ils ne sont plus là quand il s'agit de faire leur devoir de citoyen. Marie, tiens, n'a pas été votée. Je ne me reconnais dans aucun candidat. C'est magouille et compagnie. Rien ne change dans mon quotidien. J'ai toujours voté, nous dit Roland sur la page Facebook de l'émission. Mais là, pour la première fois, je ne me suis pas déplacé. Les politiques se moquent de nous en permanence. Les grands discours, c'est bon, stop, ça suffit.
Alors Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive France, qu'est-ce que vous prenez ce matin? D'ailleurs, moins que j'aurais pu l'imaginer, hein, les sondeurs, parce que les gens vous épargnent un peu, les médias vous épargnent un peu. Mais c'est vrai que vous êtes trompé de manière spectaculaire, et notamment sur le Rassemblement National.
Notamment sur le Rassemblement National. C'est vrai qu'entre les dernières intentions de vote et la manière dont les Français ont voté, il y a un écart qui est un écart manifeste, et avec un Rassemblement National qui avait été mesuré bien, de manière bien plus élevée que ce qui s'est produit hier. Une des clés d'explication, c'est qu'il y a deux catégories de population qui traditionnellement votent pour le Rassemblement National, qui nous avaient affirmé qu'ils iraient voter et au final qu'ils n'y sont pas allés. Ces deux catégories de population, ce sont des jeunes d'un côté et des personnes qui sont issues des catégories populaires de l'autre. À titre d'exemple, on a 80% des jeunes qui sont âgés de 18 à 24 ans qui ne sont pas déplacés aux urnes. Nous avons 75% des personnes qui sont ouvriers qui ne sont pas déplacées hier dans le cadre du scrutin. Et donc ça a eu une incidence extrêmement forte sur le résultat. Alors, ça ne nous exonère pas de nos responsabilités, parce qu'en fait, c'est des points qu'on n'a pas su mesurer à sa juste valeur. Mais en tout cas, c'est une des clés d'explication qui permet de dire pourquoi entre les dernières intentions de vote d'un côté et le comportement électoral réel, il y a cette différence.
C'est terrible d'ailleurs que les classes populaires ne votent pas, parce que ce sont celles qui sont le plus en difficulté, qui aimeraient sans doute, par leur vote, faire changer des choses. Et ça veut dire qu'elles n'y croient plus.
Il y a ça. Et puis, jeunes comme catégorie populaire, ce sont les personnes, sans vouloir les stigmatiser, mais qui sont les plus distantes d'un point de vue général à l'égard de la politique ou du fond du débat politique. Et ce que nous disent ces catégories de population, c'est un, est-ce qu'il y avait véritablement un enjeu derrière ces élections régionales? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir un président de gauche, de droite, de centre, voire du Rassemblement National, change fondamentalement les choses?
La réponse est oui.
La réponse est oui. Selon vous,
selon elle, les transports, ça c'est, on ne cesse de l'expliquer. Mais, il y a de la pédagogie d'ailleurs. C'est vrai que c'est important. Mais, une présidence de région, ça agit sur le réel. C'est pas rien les transports dans une.
C'est pas moi que vous avez besoin de convaincre, mais enfin, d'une manière générale, les Français, en fait, en tout cas, ces catégories de population ne sont pas convaincus. Ils se disent d'une manière ou d'une autre, globalement, une politique de transport, qu'elle soit menée par un candidat, enfin, ou par un président de gauche ou de droite, ça ne change pas véritablement les choses. Il y a également un fait qui est un fait nouveau, qui n'était pas présent lors lors des précédents scrutins, c'est que la première fois que nous n'avons pas de président de région sortant qui se revendique de la majorité présidentielle. Et vous savez que même si on dit que globalement il y a des élections qui sont des élections locales, les Français veulent également soit sanctionner, soit encourager le président de la République, le Premier ministre. Et là, nous n'avons aucun président sortant qui est proche d'Emmanuel Macron.
Alors Théo est avec nous puisque c'est l'émission des auditeurs. Il a 21 ans, il est étudiant en droit. Alors c'est peut-être un profil là aussi particulier parce que ça veut dire que vous vous intéressez à l'actualité. Bonjour Théo.
Oui, bonjour Pascal, est-ce que vous allez bien ?
Ben, ça va bien, mais est-ce que vous avez voté hier ?
Eh ben non, je ne suis pas allé voter. Bien que très intéressé par la politique, je ne suis pas allé voter pour plusieurs raisons. La première, c'est que je m'identifie, comme beaucoup de Français, je ne m'identifie pas à l'offre politique qui est proposée actuellement. Je pense aussi, les domaines gérés par les régionales, je trouve que ça ne m'intéresse pas non plus. Le transport, les lycées, etc., je ne suis plus trop concerné par ça. Pour expliquer l'abstention, je pense que c'est plutôt facile à comprendre. Hein. Les deux partis qui ont le plus pâti de l'abstention, c'était le Rassemblement National et la France Insoumise. Et c'est les deux partis qui déçoivent le plus en ce moment, avec l'attitude de Mélenchon et l'attitude de Marine Le Pen qui divague, qui déçoit de plus en plus son noyau dur, parce qu'elle se chiraquise, on va dire, entre guillemets. Donc je pense que c'est pour ça que... je crois qu'il y a 7 électeurs sur 10 de Marine Le Pen qui ne sont pas allés voter dimanche. Je pense que c'est les deux candidats qui déçoivent le plus, c'est eux qui ont le plus pâti. Il n'y a pas vraiment de grandes choses à dire. Je pense aussi qu'il y a aussi un échec d'information au niveau des régionales. Je n'ai pas vu sur les réseaux sociaux vraiment beaucoup de campagnes du gouvernement qui expliquaient en quoi ça consistait vraiment. Je pense que s'ils avaient vraiment insisté sur ça, le rôle de la région, ça aurait eu peut-être un plus grand impact. Et aussi le recoupage des régions aussi qu'il y a eu sous Hollande. Je pense que les gens avant, par exemple, moi je suis alsacien, ça m'aurait peut-être plus intéressé de voter pour une campagne axée sur l'Alsace que sur le Grand Est, qui paraît un peu insipide. L'Alsace, c'est quand même une belle identité assez propre, ça m'aurait peut-être influencé si c'était resté l'Alsace, mais là, le Grand Est, je me sens moins concerné, on va dire.
Bon, c'est intéressant ce que vous dites, mais en même temps, l'information en région, elle passe beaucoup par ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale. Et là, et puis les télés régionales qui existent et les radios aussi forcément locales qui existent. Donc, c'est aussi une manière d'avoir les informations. J'imagine que vous êtes à Strasbourg et qu'il y a eu des débats sur les radios locales ou dans les dernières nouvelles d'Alsace chaque jour. Donc, c'est une manière quand même de. Alors, je ne sais pas si vous lisez ou pas les dernières nouvelles d'Alsace.
C'est bien ça le problème. Moi, je lis la presse papier, j'écoute la radio. Mais est-ce que les jeunes lisent la presse papier et écoutent la radio ?
Oui, mais bon, quand je suis méchant, je dis que les jeunes, ils s'intéressent plus à rien de ce qui.
Non, moi, je m'intéresse.
Ils ne s'intéressent plus à rien de ce qui nous intéressait. C'est-à-dire que c'est une autre culture qui se met en place. Et c'est d'ailleurs assez intéressant. C'est-à-dire que tu es parfois. On est tous parfois plongés avec des très jeunes au moment des vacances. Notamment, tu t'aperçois qu'il n'y en a pas un qui achète un journal ou un quotidien, il n'y en a pas un qui lit forcément de la littérature, il n'y en a pas un qui s'intéresse à une culture plus traditionnelle ou plus classique, je ne sais pas comment le dire. Donc c'est normal que sur la politique qui est un enjeu classique, tu t'aperçois peut-être qu'après 40 ans de scolarité ou d'éducation où l'éducation civique est passée à la trappe, où l'histoire est passée à la trappe, nous dit-on, où la littérature est moins enseignée, peut-être qu'on a aujourd'hui les effets de tout cela avec une génération qui s'intéresse pas à grand-chose et qui aime simplement jouer et passer du bon temps. C'est un peu réducteur, ce que je dis, monsieur Lévy.
C'est un peu réducteur parce qu'en fait, on a aujourd'hui des jeunes qui lisent quand même nettement, mais peut-être de manière très différente de la manière dont on pouvait lire il y a encore quelques années. Il y avait malgré tout une perméabilité de l'information par rapport à ce qui existait avant à travers les réseaux sociaux. Alors après, on peut considérer que c'est bien ou mal, mais que déjà, les grandes idées ou les grandes tendances ou la partie émergée des débats, ils les ont et en tout cas, ils en ont entendu parler. C'est vrai que quand on entre après un peu plus dans le fond des dossiers, quand vous parlez en fait des sujets, qui peut être par exemple le sujet des transports que vous avez évoqué tout à l'heure, le fait qu'il puisse y avoir des politiques qui soient menées de manière différente selon l'orientation et le positionnement politique justement de la part des majorités régionales ne traverse pas les électeurs.
On va marquer une pause, mais Théo, il y a une chose que vous m'avez dite et qui m'intéresse beaucoup, vous m'avez dit je n'ai pas d'offre. Alors ça, je vais vous interroger là-dessus après la pause.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Théo. Théo qui a 21 ans. Quand vous dites l'offre, parce que ça, je trouve que c'est un peu facile pour dire il n'y a pas d'offre. Bon. Ou l'offre ne me convient pas. Parce que vous rejetez la responsabilité sur la société ou sur le politique. Non, quelle offre aimeriez-vous qui soit mise en place qui fait que vous vous déplaceriez voter?
Bah, si vous voulez, moi, à la base, hein, pour être clair avec vous, je suis plutôt orienté LR. D'accord ? Donc je suis plutôt droite classique, on va dire.
Bah, il y a du choix, là. Il y a l'embarras du choix.
Il y a du choix, sauf que le problème, c'est qu'actuellement, le parti LR, pour moi, il y a une espèce de dérive. Ça veut dire qu'il y a son aile gauche qui est en train, limite, de fusionner avec LREM, et il y a son aile droite qui donne des gages un peu au RN. Et j'ai l'impression que ce parti, il est en vraie étape déliquescence, hein. Et quand je vois, par exemple, Xavier Bertrand qui dit que son seul adversaire, hein, son seul ennemi, c'est Marine Le Pen, alors que ça fait 8 ans qu'on est frappé par l'islamisme, hein, ça serait bien qu'il ait un deuxième ennemi, et que ce soit l'islamisme, par exemple, bah, moi, ça me dérange, par exemple, qu'on ait vraiment une espèce de droite comme ça qui est en train de s'auto-détruire complètement.
Alors, j'entends bien, mais alors, quelle droite aimeriez-vous qui se mette en place et qui, justement, ne soit pas en difficulté, comme vous le dites?
Bah, moi, j'aimerais bien.
Qui incarnerait ça, par exemple, dans le passé, selon vous?
En 2017, je n'avais pas l'âge de voter, mais j'aurais bien aimé voter pour François Fillon. Quand je lis son programme, hein, François Fillon, c'était un programme qui m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire qu'il était ferme avec l'immigration sans non plus être dans la caricature comme Madame Le Pen. Il était, au niveau de l'économie, il était assez libéral. Il faisait de la réelle politique. Je trouve que c'était vraiment... Après,
donc l'offre de François Fillon n'existe pas, selon vous?
Bah, actuellement le programme... Comme je vous l'ai dit, avant, LR avait une ligne politique claire qui était guidée... Fillon la portait bien, hein, mais maintenant, on a une espèce de division il y a une espèce de division avec d'un côté Éric Ciotti, le président du Sénat LR aussi, qui ont une ligne
dure. Même si le LR sont les enfants de l'UMP, l'UMP, c'est aussi deux familles politiques qui étaient l'UDF et le RPR, et tu retrouvais dans les années 70 ces dissensions, hein, avec l'UDF un peu plus à gauche ou un peu plus au centre, et puis le RPR un peu plus à droite. Mais je vais interroger Jean-Daniel Lévy, parce que cette offre, est-ce que ça revient lorsque vous interrogez les Français, que l'offre n'est pas suffisante?
Oui, ça revient, mais surtout, en fait, l'absence de débat. C'est-à-dire qu'en fait, on se demande, notamment au niveau régional, mais également au niveau national, ce qui fait une différence fondamentale de la couleur politique du responsable politique qui est aux responsabilités. Ce qui est assez frappant, c'est que quand vous interrogez, par exemple, aujourd'hui, les électeurs de gauche par rapport au bilan de François Hollande, ils n'ont pas forcément la fierté d'avoir porté François Hollande à l'Élysée, en se disant, est-ce que cette politique, véritablement, elle est l'incarnation de la gauche? La réponse, à leurs yeux, apparaît comme étant négative. Et donc, il n'y a pas cet aspect qui a pu exister dans les années 70-80, pour les côtés positifs et potentiellement négatifs, mais en tout cas, d'une conflictualité, de vision du monde et de pratiques politiques qui étaient extrêmement marquées. Pour rebondir justement sur le propos de Théo, dans les années 70-80, il y avait, pour faire vite, une réflexion sur le rôle de l'État et la place du marché. Pour faire vite, la gauche disait il faut que le rôle de l'État soit majeur et que la place de marché soit réduite à sa portion congrue. Et la droite disait plutôt l'inverse. Là, quand vous regardez aujourd'hui en fait les prises de position de la part des principales formations politiques, il y a globalement un regard qui est un regard assez entendu sur le fait que l'État doit intervenir et qu'on ne doit pas forcément aller vers une politique qui est une politique à caractère libéral. La manière dont s'est passée la gestion de la Covid par le gouvernement en a pour partie été l'illustration.
On va marquer une nouvelle pause et puis merci beaucoup Théo. Et nous attendons Véronique dans une seconde. Nous avons d'autres sujets aujourd'hui. Hein. Le Front républicain existe-t-il encore? Je l'ai dit, évidemment, les boîtes de nuit pourront rouvrir le 9 juillet. Donc ça va être bien. Laurent Tessier se prépare déjà. Et puis la musique. C'est la fête de la musique le 21 juin. Vous savez qui a 66 ans aujourd'hui, par exemple, Monsieur Caranani?
Non, pas du
tout. Michel Platini a 66 ans. 21 juin. Le prince William est né un 21 juin. François Sagan était né un 21 juin.
Donc on parle de la fête de la musique, c'est pas superficiel, vous préférez pas.
C'est formel.
D'accord, non, mais je pose la
question. 21 juin, c'est un joli symbole.
Bien sûr.
Il y a des dates comme ça, c'est sympathique de naître un 21 juin. À tout de suite.
Pascal Pro, Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Nous vous attendons sur cette question. Le Front Républicain existe-t-il encore en Provence, Alpes-Côte d'Azur? La liste RN de Thierry Mariani est arrivée devant le sortant, le Républicain Renaud Muselier. Le troisième homme, l'écologiste Jean-Laurent Felizia, a dit vouloir se maintenir au second tour. Europe Écologie Les Verts lui a retiré son soutien. Le patron du parti, Julien Bayou, le menace d'exclusion. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a réagi ce matin sur RTL.
Je ne comprends pas ce qui se passe à gauche et le fait que la liste se maintienne. Je n'imagine pas qu'un électeur ou une électrice de gauche ait envie de contribuer à ce que les lycées de ses enfants soient gérés par le meilleur ami de Bachar al-Assad.
Même réaction d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste.
Je renouvelle mon appel solennel. Jean-Laurent Felizia doit se retirer avec l'ensemble de ses colistiers pour ce second tour. On ne peut prendre aucun risque face à l'extrême droite. Il ne peut pas y avoir une tache noire sur la carte de France.
Tout cela est pathétique, lance Bernard sur nos réseaux sociaux. Pour Didier, on comprend pourquoi les gens ne votent plus. On en a marre des magouilles de la gauche, de la droite. Si le RN est en tête, il faut respecter le vote des Français. Avis partagé par Eric, marre de cette soupe politique et bravo à ce candidat écologiste, écrit Patricia. Il faut qu'il garde cette ligne et sa présence au second tour.
C'est Gabriel Attal qu'on a entendu.
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.
Pourquoi les gens ne votent plus? Mais si effectivement vous êtes porte-parole du gouvernement et vous dites que vous ne souhaitiez pas que vos enfants aillent dans un lycée qui soit géré par le meilleur ami de Bachar el-Assad. Bon, c'est peut-être aussi un peu réducteur, un peu excessif. Comme parole.
On en revient aux commentaires juste après les auditeurs.
De résumer Thierry Mariani à dire que c'est le meilleur ami de Bachar el-Assad. Effectivement, peut-être que les hommes politiques doivent aussi s'intéresser à ce qu'ils disent et faire, pourquoi pas, un examen de conscience. Nous sommes avec Véronique. Véronique,
oui,
qui habite Le Mans. Vous avez voté?
Oui, bien sûr. Régional et départemental. Bon, étant donné qu'en plus j'étais remplaçante d'un titulaire.
Ah oui, en plus donc, vous avez voté pour vous donc.
Donc pas forcément.
Ah bah si vous êtes remplaçante d'un titulaire et que vous votez pour l'adversaire, c'est étrange. Mais est-ce qu'on peut savoir l'engagement politique que vous avez?
Ben non, parce que sinon vous êtes obligé de leur donner le même temps de parole qu'à moi.
Vous avez parfaitement
raison. Comme je suis bavarde, vous n'êtes pas rendu là.
Vous avez parfaitement raison, c'est vous qui avez raison, c'est moi qui, le CSA nous écoute. Et vous avez parfaitement raison, j'allais faire une erreur. Donc Véronique, on ne sait pas pour qui vous votez. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est le lien entre l'homme politique et le public. Et les lecteurs.
J'ai écouté là depuis tout à l'heure. J'ai entendu M. Lévy dire souvent les gens font un vote sanction. Je pense que la sanction, là, ça a été l'abstention. Il y a beaucoup de gens qui disaient on va voter extrême droite, etc. Je pense que ces gens-là se sont abstenus. Et je pense que la sanction, elle est là. Attention, là, on s'est abstenu, on s'abstiendra peut-être pas la fois d'après. J'ai entendu un jeune homme dire, oui, mais bon, moi, régional, tout ça, le lycée, les transports, ça me concerne plus. Alors, ça prouve là que les gens ne sont absolument pas au courant de ce que sont les régionales et les départementales. Parce que les départementales, ça nous concerne tous du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. C'est les crèches, c'est les transports, c'est les collèges, c'est l'aide à domicile, les maisons de retraite. Donc, ça nous concerne tous. Donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, les informations ne passent pas. Si les informations ne passent pas et qu'on dit que les jeunes ne votent pas, moi, bon, je ne suis pas élue, je ne suis pas députée, je ne suis pas ministre, je ne suis pas tout ça, mais je pense qu'il faut déjà informer sur les supports que les jeunes utilisent. Donc, pas la presse papier qu'ils n'utilisent pas et pas forcément la radio qu'ils n'écoutent pas. Déjà, ça permettra que les informations passent. Et qu'ils soient un petit peu plus au courant de quand est-ce qu'on vote et pourquoi ils votent. Moi, je sais, j'ai fait du porte-à-porte. Je peux vous assurer qu'il y a sur 5 personnes, vous en avez au moins un qui ne sait pas qu'il y a des élections et qui ne sait pas à quoi ça sert.
Non, mais la région, ce n'est pas rien. Ça intervient dans la culture, le sport,
évidemment,
le tourisme, les langues régionales.
C'est la formation professionnelle, c'est le développement
économique. Et surtout la qualité de l'air, par exemple. Et je ne dis pas ça au hasard, parce que la qualité de l'air, c'est de l'écologie. Et parfois, c'est des thèmes qui sont privilégiés par les plus jeunes. Donc, ils auraient pu aller précisément voter pour...
Ils n'ont pas l'information, Pascal. Ils n'ont pas l'information.
Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les prendre par la main et
qu'ils
se renseignent. Et à un moment, les gens sont responsables quand même de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils ne savent pas.
Non, on est dans une société aujourd'hui où les gens sont de plus en plus individualistes. Donc, voilà, on a aussi, nous, notre génération, Pascal, j'ai à peu près le même âge que vous, je suis 57, voilà, vous êtes un peu plus jeune. Nous, on avait effectivement, on regardait le journal télévisé avec nos parents, etc. On entendait nos parents parler de politique. Et, bon, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de jeunes qui entendent leurs parents parler de politique, déjà. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui veulent plus, ça les concerne plus. Donc, déjà, les jeunes n'ont pas l'information chez eux, à l'intérieur de chez eux. Et il faut effectivement utiliser les supports qu'ils utilisent pour leur donner l'information. Ce que le gouvernement ne fait pas. Ce que le gouvernement ne fait pas.
Mais c'est donc, rejeter ça la responsabilité. Mais je vais demander à M. Lévy ce qu'il en pense, mais c'est rejeter la responsabilité. Il y a un moment où chacun, est son centre d'intérêt, il peut le développer tout seul et aller à la recherche de l'information. Jean-Daniel Lévy.
Et on voit que, d'une manière globale, les jeunes, lorsqu'ils sont intéressés, alors vont utiliser des canaux qui sont différents de leurs aînés, mais ils vont vraiment rechercher sur les réseaux sociaux, à travers leurs amis, à travers les différents groupes qui peuvent exister, à travers Internet, une information. Et lorsqu'ils veulent une information, ils arrivent à la trouver, ils arrivent même parfois à l'approfondir. Après, ça dépend aussi d'une question qui est une question toute bête et qui s'appelle la question de l'enjeu. Les jeunes continuent de se mobiliser pour des élections, comme par exemple, ça peut être le cas de l'élection présidentielle où il y a près de 80% des Français qui se déplacent pour aller voter et que les jeunes n'échappent pas à cette participation. On a même pu voir, ça date d'il y a quelques années, mais en 2005, lorsqu'il y a eu le débat sur le traité constitutionnel européen, que nous avons eu une mobilisation qui, au niveau national, a été exactement au même niveau que celle concernant le débat pour Maastricht, qui s'était déroulé 13 ans plus tôt, en 1992. Et là aussi, les jeunes s'étaient aussi assez nettement mobilisés. En tout cas, il n'y avait pas eu une déperdition absolue de leur part ou une désertion complète des jeunes. La question qui reste à répondre, à laquelle il faut répondre de manière générale, c'est y a-t-il ou pas un enjeu à se déplacer pour aller voter?
Mais il y a un point qui est un point supplémentaire. Qu'il y avait pas.
Là, ils ont pensé que ce n'était pas le cas.
Alors, merci beaucoup, Véronique, sauf si vous voulez ajouter un mot.
Eh ben, je dirais que, en plus, quand les gens disent nous, on en a marre, effectivement, je pense qu'il faut dépoussiérer. Et c'est pas qu'il y a quand ils disent il y a pas de choix. C'est pas qu'il y a pas de choix, c'est que c'est toujours les mêmes têtes. Et je pense que c'est ça aussi. Les gens ont envie que ça change de tête.
Écoutez, franchement, les têtes, elles ont changé quand même.
Non, pour ça, il faut. Je pense que les gens attendent qu'on prenne en compte le vote blanc ou l'abstention. Là, tous les Français attendent ça. Ils trouvent que c'est pas normal que les gens soient élus à 20% ou là à 10%, des choses comme ça. Et là, quelque part, je les rejoins. Parce que on arrive, effectivement, où on a, par exemple, là, aujourd'hui, un président qui a été élu, mais qui a pas été élu par la majorité. Et du coup, on a une majorité de gens qui crient dessus, a reçu le baudet, etc., parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils n'ont pas voté sur lui. Et donc, ça crée, pour lui, c'est extrêmement difficile, effectivement, de pouvoir gouverner, parce que il a un gros pourcentage de gens qui n'étaient pas pour lui. Et le suivant, ce sera pareil. Tant qu'on ne prendra pas en compte le vote blanc et l'abstention, on aura ce souci de ceux qui n'ont pas voté pour, qui forcément viendront dire on n'est pas d'accord, voilà, c'est ce qui viendront râler et qui viendront crier au complot, etc. Et je pense que voilà, c'est pas bon. C'est pas bon qu'on ne prenne pas en compte
Véronique.
Les gens. Voilà.
Merci Véronique. Je soumets aux auditeurs également cette intervention de Stéphane Richard, le PDG d'Orange, sur les réseaux sociaux, qui dit face à l'abstention massive, un chantier urgent s'impose, la modernisation du vote, vote par correspondance, vote électronique sécurisé. Notre démocratie doit s'adapter à nos vies d'aujourd'hui en restant irréprochable. Ben ça, je trouve que c'est une piste intéressante parce qu'effectivement, notamment à Paris, on voit beaucoup de gens qui s'en vont à Paris parce que voilà, de Paris le week-end en tout cas, hein, parce qu'ils en ont marre d'être confinés dans la ville toute la semaine, donc ils partent le week-end et les élections ont lieu le dimanche. Donc c'est une piste peut-être intéressante, et effectivement, on pourrait imaginer qu'on puisse voter sur Internet, sécurisé bien sûr, hein, avec des codes bien évidemment, mais pourquoi pas. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud
et Laurent Tessier.
Nous parlerons à 14h de la fête de la musique et cette annonce très attendue. Les boîtes de nuit pourront rouvrir le 9 juillet sur présentation du pass sanitaire avec une jauge à 75% d'intérieur. Ça leur met dans l'ambiance. Le masque ne sera pas obligatoire mais recommandé. Patron de discothèque, appelez-nous pour réagir à cette nouvelle. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé la reprise des concerts avec du public debout à partir du 30 juin. Et c'est vrai que la musique rythme nos journées. Selon une étude Kantar publique, un Français sur deux se prépare en musique le matin. 85% on écoute sur leur trajet, 74% pendant les tâches ménagères. Et surtout, peut-être vous, cher Pascal, un Français sur deux affirme toujours écouter les mêmes chansons. Est-ce votre cas ?
Qu'est-ce que vous appelez les mêmes chansons ?
Les mêmes chansons en boucle, les mêmes tubes, les mêmes titres.
Ah bah Pascal, c'est plutôt ça, non ?
C'est merveilleux, ça.
Bah, je savais que ça vous plairait, bien sûr.
Il n'y a pas que ça, mais ça, c'est vraiment bien. Mais non, ce qui est drôle, par exemple, c'est que les playlists des uns et des autres se terminent à 28 ou 29 ans. C'est-à-dire qu'après 30 ans, plus rien n'entrerait dans ta playlist, ce qui fait peur.
C'est vrai.
Alors ça, je ne sais pas si vous avez fait des études, monsieur Lévy, là-dessus, mais c'est passionnant. C'est-à-dire que ta capacité d'écouter de nouvelles chansons serait limitée statistiquement.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on forge sa culture musicale dans la jeunesse et qu'en général, après, les rails sont posés et qu'on a tendance à rester effectivement dans les mêmes orientations.
C'est pas très gay quand même, ça manque de
curiosité.
Mais c'est vrai que moi j'écoute plus facilement Supertramp que.
Vous pouvez écouter Charlotte Cardin alors si vous ne connaissez pas.
Mais je l'écouterai avec.
C'est ça. C'est tout nouveau, c'est frais, ouais, c'est estival.
Ça a l'air sympa. Ce soir, en revanche, la fête de la musique, paraît-il qu'on ne peut pas faire, j'ai écouté Sophie Orange ce matin, on ne peut pas faire de musique dans la rue tout seul. Voilà. Ah, ça, je le regrette parce que je jouais de la flûte. Non, du tambourin. Ah. Je serais descendu dans la rue avec mon tambourin, mais manifestement, c'est pas possible. Gilles, bonjour, qui est artisan.
Bonjour,
artisan à Montereau. C'est où Montereau?
C'est en remontant la Seine.
D'accord.
À l'endroit où en fait la Seine se jette dans l'Yonne, mais à l'époque on savait pas faire les relevés hygrométriques, donc c'est du coup l'Yonne qui se jette dans la Seine.
Alors Gilles, votre analyse sur l'effondrement
sur
du rassemblement, pas l'effondrement d'ailleurs, mais
l'effondrement,
l'échec du Rassemblement national, ouais, l'effondrement de la République en marche et l'abstention.
Bah, j'ai une théorie sur l'abstention, en fait. Quand on vous demande 15 fois ce que vous voulez manger, 15 fois on n'écoute pas votre avis, à un moment vous dites, démerde-toi, fais la bouffe et puis on mangera ce qu'il y a. Je vais vous dire une chose, moi ce que je constate, ça fait 40 ans que je suis électeur, ce que je constate c'est l'impuissance de l'exécutif. Et ça me terrifie, parce qu'en fait je vois qu'on a des gens qui arrivent avec plein de belles paroles, alors ils roulent des muscles, etc., etc. On s'aperçoit qu'ils tiennent pas leurs administrations, et qu'au final, les élus récurrents, depuis 40 ans, c'est les hauts fonctionnaires qui, eux, sont inamovibles. Donc, vous pouvez arriver avec des grandes idées, si les courroies de transmission fonctionnent mal ou font de l'obstruction systématique, vous ne faites rien, c'est exactement ce qui se passe depuis 40 ans.
C'est-à-dire que depuis 40 ans, selon vous, aucun président de la République n'a influencé le réel?
Bah, pas beaucoup en tout cas, beaucoup moins qu'il ne devrait. Si vous voulez, moi ce que j'attends d'un chef, c'est quand il appelle ses hauts fonctionnaires, ses directeurs de cabinet, etc., qu'il leur dise, messieurs, je ne veux pas savoir pourquoi ce n'est pas possible, je veux savoir comment c'est possible. Or ça, je le vois pas. Je pense qu'un être chef, c'est pas, il suffit pas d'être ministre pour être chef. Être chef, c'est être chef. Ça sous-entend de la responsabilité. Ça sous-entend d'avoir, si vous me permettez, déterminé et d'accepter l'idée qu'on peut pas plaire à tout le monde. Alors maintenant, moi, je suis allé voter. J'ai fait barrage, non pas au Front National, mais au petit bonhomme qui veut faire de la verdure à tout prix et quand il joue un petit Staline verdoyant. Mais je vais pas voter parce que je crois à quelque chose. J'y crois plus. En fait, je trouve que tous ces gens, ils parlent beaucoup et puis ils font pas grand chose. Et tout simplement parce qu'en fait, ils ne peuvent pas faire quelque chose. La queue remue le chien. Hein. C'est plus. Les Suisses, pourquoi ils vont voter? Bah parce que quand ils votent et qu'ils sortent quelque chose, bah il se passe quelque chose. Et l'élu éventuel qui est passé en votation, il se fait botter les fesses. Chez nous, on botte pas les fesses des élus. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont à l'abri de tout. En gros, une fois tous les 5 ans, on vote et puis ensuite, ils font ce qu'ils veulent.
Mais vous le faites pour les présidentielles, vous le faites aussi pour les scrutins locaux?
C'est à peu près la même chose.
Par exemple, à Montereau, il y a un maire, j'imagine, à Montereau?
Oui, il y a un maire à Montereau qui est réélu généralement au premier tour. Mais c'est pas moi ce qui me pose problème dans l'organisation de ce pays, c'est que, en fait, c'est le royaume de Péto. On veut donner des responsabilités à tout le monde. Est-ce que vous avez vu dans le Figaro l'organigramme des ARS? Allez trouver un responsable là-dedans. Il n'y a pas de responsable. L'État devrait s'occuper des trucs de l'État, c'est-à-dire la défense, la diplomatie, la police, la justice. Les régions devraient s'occuper de ce qui les concerne. Alors, sinon, vous avez en gros le conseil municipal qui s'occupe des toilettes du collège. Mais en fait, c'est la mairie qui s'occupe de la cantine et machin bidule. En gros, personne n'est responsable de rien. Il n'y a rien qui fonctionne.
Bon, c'est un peu... effectivement, il y a
c'est
beaucoup...
un peu tranché, je voulais l'accord.
Non, c'est pas que c'est tranché, mais il y a un peu de mélange.
Un peu d'agacement.
Si le terme est juste. mais en tout cas, vous traduisez un sentiment, c'est dont on a parlé, Monsieur Lévy, depuis
clair,
tout à l'heure, c'est qu'en fait,
ça
sert à rien d'aller voter. Voilà ce que nous dit Gilles. Bah, en gros, ça ne sert à rien depuis 40 ans, ils font rien, quoi. Voilà.
Non, mais moi, je vais voter parce que j'estime que pour râler, il faut aller voter. Mais j'attends pas grand chose parce qu'en fait, l'organisation est corrompue. En gros, les organisations se protègent elles-mêmes. Tous les corps constitués se protègent eux-mêmes.
Bon, on va répondre après la pause. Jean-Daniel Lévy vous répond après la pause non pas sur le fond, bien sûr, mais sur les motivations que vous avez mise en place pour expliquer que les gens ne votent plus. Il nous dira si c'est partagé par une part de l'opinion en France. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Alors Gilles était avec nous et pour synthétiser ce que disait Gilles, c'est voilà, il a voté d'ailleurs Gilles, mais il considère que les gens vont plus voter parce que les gens n'y croient plus. C'est une antienne d'ailleurs et que non seulement il n'y croit plus, mais que depuis 40 ans il ne s'est rien fait, donc ça ne sert à rien de voter. Est-ce que vous voyez ça dans les études, monsieur Lévy ?
On voit ça, on voit peut-être quelque chose de presque d'encore plus grave. C'est que lorsque les responsables politiques parlent, on ne les comprend pas en France. Et on a le sentiment, en fait, que ce qu'ils disent ou leurs propos, souvent, est creux, vide, inefficace et même parfois inopérant. Et donc, dans ce contexte-là, il y a un langage qui est tenu, en fait, de la part de personnes qui viennent parler dans les médias d'un point de vue global, mais qui ne parlent même pas d'une connaissance réelle de ce que vivent les citoyens dans le cadre de leur quotidien. Et sans faire de poujadisme, il y a la perception, d'un point de vue global, que l'état des lieux, ne serait-ce que les conditions de vie des Françaises et des Français dans le cadre du quotidien, n'est pas identifié de la part des responsables politiques. Les Français ne demandent pas forcément, évidemment, que les responsables politiques vivent exactement comme eux. Mais ils disent, au moins, comprenez-nous. Au moins, sachez comment nous sommes. Et à partir du moment où vous arriverez à faire un état des lieux de ce qu'est notre situation, on pourra vous écouter dans les propositions que vous pourrez effectuer. Mais vu que le constat de départ n'est pas partagé, ça empêche le fait de pouvoir entendre des propositions effectuées par la suite.
Bon, ben merci Gilles. Vous voterez dimanche prochain ?
Ah oui, évidemment, je vais voter dimanche prochain.
Vous, c'est la région
Île-de-France.
Île-de-France.
Et si vous voulez, il y a déjà les autres d'emmerdement. Comment c'est quoi ? C'est la zone les autres fortement emmerdantes. Et j'ai pas envie qu'il y en ait plus. Monsieur Machin, là, le petit verdoyant, s'il veut, je l'invite pendant 15 jours chez moi avec un vélo, pas de chaussures, parce que le caoutchouc, c'est pas bien et le cuir, ça pollue. Donc en gros, et puis on verra comment il se démerde au bout de 15 jours à aller bosser tous les jours à Paris avec son vélo, une grande côte, une demi-heure à une heure pour aller chercher le pain, etc. On verra comment il ressortira de tout ça avec ses convictions.
Bah merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Nous sommes avec Francis qui habite Nancy. Et qui est en tête à Nancy ? C'est Monsieur Rottner, je pense, qui est en tête chez vous. Bonjour, Francis.
Bonjour, Pascal, et bonjour aux éditeurs. Oui, c'est Monsieur Rottner qui est en tête, devant le Rassemblement National.
31% Jean Rottner, Laurent Jacobelli a fait 21%, Union de la Gauche 14%. C'est la région Grand Est. Vous avez voté hier ?
Non. Si j'ai quelque chose de plus intéressant à faire, je le fais. Si je n'ai rien d'autre de plus intéressant à faire, je vais voter. Et je vote la même chose depuis à peu près 20 ans maintenant. C'est-à-dire que je prends un bulletin, je vote nul. Je prends un bulletin, je marque avec un stylo dessus, Coluche. Je le mets dans l'enveloppe, je le mets dans l'urne. Pourquoi ?
Mais c'est terrible en plus, parce que vous êtes enseignant vous-même, donc vous êtes désenchanté.
Ben, je suis désenchanté depuis longtemps. En fait, regardez ce qui s'est passé depuis 30 ans pour ces élections régionales, par exemple. Il y a 30 ans, on avait 30%. Facile à retenir, 30 ans, 30% d'abstention. Aujourd'hui, on a 30% de participation. On est passé de 30% d'abstention à 30% de participation en 30 ans. C'est un lent déclin. Ça n'a rien à voir avec l'épidémie, ça n'a rien à voir avec le déconfinement, le soleil. On a déjà eu des périodes où il faisait chaud, il faisait froid. Et les gens allaient voter. Mais ce qui était un vote solennel, quand j'étais gamin, il y a plus d'un demi-siècle, les gens allaient voter dans mon village vosgien. Les gens allaient voter, les gens s'habillaient pour aller voter. Les hommes mettaient un costume cravate pour aller voter. C'était vraiment un geste solennel, c'était quelque chose dont on parlait. On lisait, on écoutait, on lisait beaucoup, plus à cette époque-là. On lisait, enfin plus, les professions de foi. Là, on nous fait un sketch sur les professions de foi qui n'ont pas été distribuées par une société privée qui a été choisie par le gouvernement, alors qu'il y a une société encore un petit peu publique qui s'appelle La Poste et qui sait faire ça parfaitement. Pourquoi ? parce qu'une société privée utilise des auto-entrepreneurs pour gagner le maximum d'argent. L'auto-entrepreneur, bah, s'il n'a plus le temps, il met à la poubelle. C'est pour ça qu'on a retrouvé des professions de foi dans les poubelles. Et vous avez des tas de témoignages sur votre radio et ailleurs. Et donc, alors que la poste, le type, c'est son boulot. S'il ne fait pas son boulot bien, il risque de le perdre. Donc voilà, on fait n'importe quoi depuis 30, 40 ans. Et c'est quelque chose que j'imaginais un petit peu au fur et à mesure du temps. Et pourtant, vous avez là à l'oreille quelqu'un qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup impliqué dans la vie politique. J'ai rencontré des tas de gens, j'ai rencontré des tas de ministres en tête à tête, j'ai participé.
Et vous n'y croyez plus, Francis. On va marquer une pause et remercier monsieur Lévy parce que vous êtes resté une heure avec nous. Je ne sais pas si vous êtes un fan de musique ou
si,
pas.
Beaucoup.
Bon. Avec un choix particulier ?
Le jazz.
Le jazz. Bah écoutez, on écoutera un peu de jazz, pourquoi pas, puisque c'est la fête de la musique aujourd'hui, 21 juin. On sera avec Eric Jean-Jean, je pense, Greg Cardelli.
Oui, il nous rejoindra d'ici quelques minutes.
Voilà, et puis on va parler avec les auditeurs de ce qu'ils aiment ou de ce qu'ils n'aiment pas d'ailleurs. Et puis on terminera avec Francis quelques secondes encore après le flash. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Olivier Bois pour le flash.
Les boîtes de nuit rouvriront le 9 juillet prochain à 75% maximum de leur capacité habituelle maximale. Il faudra justifier du pass sanitaire avec donc vaccination ou test récent. Le masque ne sera pas obligatoire mais conseillé. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot qui annonce également que les concerts debout vont reprendre le 30 juin avec une jauge de 75% en intérieur, de 100% en extérieur et là encore pas de masque obligatoire. Un joker de moins pour l'équipe de France de football. L'attaquant Ousmane Dembélé quitte les Bleus. Il s'est blessé au genou samedi face à la Hongrie. Il avait dû sortir à la 87e minute. Après examen, les médecins ont vu qu'il ne serait pas remis d'ici la fin de la compétition. Le programme du jour, Ukraine-Autriche et Macédoine-Pays-Bas tout à l'heure à 18h. Et puis les matchs du soir, Finlande-Belgique et Russie-Danemark. Les élections régionales, pour le moment en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le candidat du Rassemblement de la gauche écologiste, Jean-Laurent Felidia, reste sur sa décision de ne pas retirer sa liste malgré les menaces d'exclusion de son parti Europe Écologie Les Verts. En PACA où le RN Thierry Mariani est arrivé en tête devant Renaud Muselier avec 36%, 4 points d'avance donc devant les Républicains. En Ile-de-France, Valérie Pécresse est largement en tête. À gauche, l'Union est en bonne voie. Julien Bayou arrivé en tête pour Europe Écologie Les Verts. Devrait recevoir le soutien d'Audrey Pulvar pour la gauche et de Clémentine Autain de la France Insoumise. Le Quintet à Saint-Cloud, voici l'arrivée provisoire à l'instant, le 13, le 6, le 9, l'As et le 8. Le temps demain qui sera globalement humide, sauf autour de la Méditerranée où ce sera ensoleillé. Les pluies devraient être plus soutenues sur un quart nord-ouest. Il fera demain matin entre 14 et 23 degrés du nord au sud.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
On termine donc avec Francis qui est enseignant à Nancy dans la région Grand Est, qui n'a plus voté depuis quelques années, quoi, qui vote blanc d'ailleurs, hein, puisque vous vous déplacez à chaque fois. Oui, vous votez nul. Et vous vouliez peut-être conclure sur notre discussion.
Le problème de tout ça, c'est un problème de représentativité. Le citoyen que je suis, et sans doute c'est le cas de beaucoup, beaucoup de citoyens, ne sent absolument pas responsable des décisions qui sont prises. Regardez, par exemple, ce qui se passe autour de Strasbourg, puisqu'on est dans la région Grand Est, avec le grand contournement ouest de Strasbourg. Vous tapez GCO Strasbourg Tribunal et vous allez voir ce qui s'est passé. Et donc, le citoyen râle contre un projet. On l'interviewe pas sur ce projet, on ne le mêle pas à la discussion, on ne tient pas compte de ses remarques. Et puis au bout du compte, les travaux sont faits et on dit ben ouais, ils avaient raison. Ben oui, mais c'est trop tard. Hein, on a fait les ronds-points, on a fait les ponts, on a fait tout ça, on a exproprié les gens. Donc le citoyen se trouve très très loin de toutes les décisions. On a eu l'exemple à Nancy du tram. Qui a fait le tour du monde avec une dépense inconsidérée pour un truc qui marchait pas, une technologie qui ne marchait pas, et donc on éloigne petit à petit le citoyen. Et alors que le citoyen voulait s'impliquer, moi j'ai pendant des années été au contact de tous ces responsables politiques. Vous rendez compte à un moment donné que en fait vous servez quoi ? Vous servez pas votre pays, vous servez pas votre intérêt, vous servez pas l'intérêt des gens qui vous entourent, vous servez simplement l'intérêt de gens
qui sont à la recherche de postes. Regardez ce qui se passe dans le Sud avec Écologie Les Verts, où on menace quelqu'un de l'exclure du parti parce qu'on refuse le résultat démocratique d'un vote. C'est une honte pour Europe Écologie Les Verts. J'ai jamais considéré d'ailleurs les responsables politiques des mouvements écologistes comme de vrais écologistes. Votre auditeur précédent, Gilles, l'a dit, qu'ils viennent un jour voir comment ça se passe sur
chez nous. On s'écarte un peu, cher Francis. C'était juste un mot de conclusion que je voulais apporter à notre débat. Mais en revanche, ce que vous dites peut s'entendre. Simplement, on s'est un poil écarté de ce que nous disions avec vous et sur la difficulté pour les uns et les autres de voter. Merci, Francis, en tout cas.
Ok, bah merci à vous et puis bonne émission.
Bah, c'est gentil. On va terminer ces régionales avec Arnaud. Bonjour Arnaud, qui est kiné et qui est le seul de sa famille à être allé voter. Arnaud, donc c'est oui. Triste là. Pourquoi vous êtes le seul à être allé voter ?
Bon, tout d'abord, bonjour Pascal. Je voulais parler de l'abstention. J'ai écouté ce matin, il y a 30 ans, on disait qu'il y avait 68% de participation, et maintenant, il y a 68% d'abstention. Ben, tout simplement parce que le PDG d'Orange, je voudrais dire aussi, m'a coupé l'herbe un peu sous le pied en disant qu'il faudrait moderniser la façon de voter. Parce que ben moi, j'ai deux fils qui sont sur Paris, que je suis allé voir d'ailleurs, j'étais cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à Paris. Je suis rentré dimanche pour...
Et ils n'ont pas voté ?
Mais ils n'ont pas voté. Mais
quel âge ils ont ?
Vous croyez qu'un jeune de 24 ans et de 28 ans, ils vont aller dans un commissariat pour aller chercher, pour faire une procuration ? Mais vous rêvez, les gens, les politiques...
Mais pourquoi elles étaient, vos filles, elles étaient où
Non, c'est que j'ai deux fils. Ils sont, oui. Si vous voulez, ils sont sur les listes électorales de Pau.
Bah, s'ils donc, habitent Paris, pourquoi ils sont sur les listes électorales de Pau ?
Mais parce qu'ils travaillent à Paris.
Bah, ils travaillent à Paris, mais je comprends pas. Ils vivent à Paris ou ils travaillent
ils
à Paris
vivent, ils vivent à Paris, un est étudiant, l'autre est avocat à Paris.
Eh bah, ben, il y a un moment, il faut pas arrêter de voter chez ses parents quand même. Pourquoi ils n'ont pas transféré leur liste ?
Parce qu'ils se sont, ils ont eu la flemme, ils l'ont pas fait.
Bah ouais, oui, mais alors ils sont là, ils sont responsables, Arnaud.
Oui, je suis d'accord, ils sont responsables. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont tous ces jeunes, ils sont 95% ou 90% des jeunes n'ont pas voté. Ils sont H24 sur leur téléphone. Donc le PDG d'Orange, il a raison quand il dit qu'il faut sécuriser.
Ben, je suis d'accord avec vous, mais ils ont une responsabilité, ces jeunes. Moi, je trouve que il y en a marre de dire que c'est la faute de la société, la faute des politiques, la faute de ceci et de ça. Non, ils ont une responsabilité pour changer leur adresse électorale, quand même.
Je suis d'accord, mais vous parlez de l'instruction civique, la Covid, tout ça. Non, moi, je pense que le malaise, il est beaucoup plus profond. Ils vont partir en week-end, vous disiez, j'en ai un après, il est parti en week-end à Biarritz, le samedi, le dimanche, il n'était pas là. Mais des fois, ça se décide au dernier moment. Donc, vous ne savez pas, vous allez faire ça, la procuration, vous ne l'avez pas faite, et puis c'est tout. Alors qu'il vote, il est dans le train, il vote. Quand on paye nos...
Non, mais moi, je suis d'accord pour changer, effectivement, pour moderniser.
Quand on fait la déclaration des impôts, parce qu'on fait tout par Internet, le numéro fiscal de référence, mot de passe, boum, l'amende. Voilà, là, il n'y a pas de risque de corruption quand l'État doit encaisser de... l'amende.
Je suis d'accord. On pourrait voter par Internet, vous avez raison, avec des codes, vous avez raison.
Et je suis sûr que les jeunes, parce qu'ils s'intéressent à la politique, les jeunes, ils ont l'actualité sur leur smartphone en permanence. Et ça, personne n'en parle. Alors, si les politiques n'en parlent pas, à part notre maire de Pau, Bayrou, et je l'en remercie, c'est le seul qui a eu le courage de dire ça, qu'il faudrait revoir le système pour voter. Voilà. C'est encore une fois des propos.
Eh bien, c'est une bonne idée, et c'est ce que disait également Stéphane Richard d'Orange.
Et ça, je vous demanderai d'en parler. Même ce matin, je vous ai écouté sur CNews. Personne n'en a parlé. Tous les grands, les gens des trucs, des opinions, des sondages, tout ça, qui sont tous plantés, personne n'en parle. Tous vos intervenants, personne n'en parle. Vous n'en avez pas parlé. Et donc, ça, je pense qu'il faudrait soulever la façon de moderniser. Vous savez, quand vous rentrez dans un bureau de vote, vous voyez encore ces isoloirs, le rideau et tout ça. Non, mais on a l'impression que ça a vraiment très, très mal vieilli. Il faut passer autre chose.
Bon, merci en tout cas Arnaud. Vous n'êtes pas né un 21 juin, Arnaud ?
Non.
Parce que c'est la fête de la musique.
Je ne suis pas né un 21. Une question que j'ai demandé à Olivier d'Artigol, dont je l'ai croisé il y a 15 jours en sortant d'un restaurant à Pau. Alors d'Artigol, ce n'est pas trop mes idées, mais il est sympathique. Alors je l'ai interpellé, il m'a très gentiment répondu. Je lui ai dit, dis-moi, Pascal Proulx, il est sympa dans la vie ? Alors, et il m'a dit oui, très sympa. Bon, puisque je suis un fan de son émission, de ses émissions qui rythment mes semaines.
Non, mais le problème, c'est qu'on est sur RTL, quoi. C'est pas le problème, d'ailleurs.
Pose-lui la question, savoir. Est-ce qu'il est vacciné, Pascal Praud ? Alors, comme je ne l'ai pas entendu, je vous la pose la question. Vous êtes vacciné, Pascal Praud ?
Mais vous savez, c'est comme le vote. C'est secret, la vaccination.
Non, mais comme vous le demandez à tout le monde autour de table.
Ah ben oui, mais ça, c'est mon job de demander. Merci en tout cas, Arnaud. Merci à vous. Merci beaucoup Arnaud en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis l'ami Olivier Dartigol, c'est sur un autre média, mais c'est vrai que c'est un homme sympathique, très ancré à gauche, Olivier Dartigol. Mais il est palois et c'est pourquoi Arnaud nous en parlait, puisque lui-même Arnaud est de Pau. On va marquer donc une pause à 14h09 et on va parler musique.
Mais c'est vrai que vous êtes sympa.
Oui, faut le dire vite. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est la fête de la musique. Écoutons la musique.
Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi.
Ah oui. Forever Young, mais never chanteur.
Forever Young, I want to be. Ça date de 85-86, Forever Young.
J'adore cette chanson, c'est Alphaville.
Ah, elle est merveilleuse.
J'aime moins votre version, mais quand même.
Bah, c'est une version nouvelle que je propose. Non.
Vous dites non parce que je vous ai dit dans le casque qu'on prend Grégory pour la discothèque. Oui, pas non tout seul à l'antenne comme ça, je rassure tout le monde.
Ah non mais Alphaville. Grégory, bonjour, les discothèques vont rouvrir.
Bon, bonjour Pascal.
Comment ça va ?
Ah bah écoutez, ça va plutôt, on va dire, mieux, mais.
C'est-à-dire ?
Alors juste avant quand même pour vous dire, j'aime aussi, je préfère la version Alphaville de Forever Young.
Ah oui. Ah, merci.
Et une autre chose, j'ai pensé à vous, vous voyez, ce week-end, j'ai eu l'occasion quand même de faire un mariage qui avait été reporté de multiples fois. J'ai passé 28 degrés à l'ombre, vous voyez.
Non.
Eh si.
Ah, vous voyez, c'est génial. On a relancé. Et vous l'auriez passé, voilà. Ne l'auriez pas repassé.
C'est un slow que je passe assez régulièrement, que j'adore. Par contre, vous m'avez fait découvrir que c'était Barbe Livien qui était à l'origine du morceau, mais c'est voilà, c'est le morceau par excellence.
Vous savez combien il a de titres, Barbe Livien, à la SACEM ? 2500 titres.
Ouais, c'est
2500 titres. C'est un truc de fou.
Complètement.
Bon, Grégory, donc vous rouvrez les discothèques, mais ça c'est plutôt une bonne chose. Allez où votre discothèque ?
Alors, pas très loin de votre pays d'origine. On est en Vendée, entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne.
Ah, c'est formidable. Et où ça, entre La Roche-sur-Yon et les Sables ?
Alors, sur une petite commune qui s'appelle Landeronde.
Et c'est une discothèque de combien de...
Alors, nous, on a une particularité, c'est que c'est un établissement qui peut recevoir environ 150 personnes.
Pourquoi c'est une particularité ? C'est pas mal ?
Parce qu'il y en a très peu, si vous voulez, sur les 1350-1400 discothèques qui restent.
Elles sont plus petites que ça ?
Non, elles sont toutes un peu plus grandes, voire beaucoup plus grandes.
Ah bon ?
On fait partie des petites en campagne.
Ah, 150
en fait.
Ah oui, 150, c'est pas beaucoup.
C'est assez petit, c'est assez petit.
Vous avez en extérieur ou uniquement en intérieur ?
Alors nous, on a un parking de 3000 m² fermé.
Oui, mais les gens ne dansent pas sur le parking.
Mais voilà, qui n'est pas réellement exploitable, on va dire, hein, pour le commerce. Donc, pour certains, ça va peut-être être, on va dire, accommodant. Pour ceux qui ont des grandes terrasses fermées, ça risque d'être assez valable, puisqu'ils nous proposent 100% d'ouverture en extérieur.
Mais là, depuis plus d'un an, comment vous vivez, si j'ose dire, Grégory ?
Je vais vous dire, en fait, nous, on a ouvert 4 mois avant notre fermeture. On a racheté fin septembre 2019. On a ouvert le 9 novembre 2019. On a fermé le 15 mars 2020. Comment je vis ? Ben, je m'étais mis, parce que j'ai un autre travail salarié à côté, et je m'étais mis en congé pour création d'entreprise. Donc, j'ai eu la chance, on va dire comme ça, de pouvoir réintégrer mon poste de salarié au 1er octobre 2020. Ce qui nous a permis quand même de revivre, parce qu'on a quand même trois enfants avec mon épouse, et puis bon, ben voilà, les crédits que tout le monde peut avoir, hein, d'une maison, d'une voiture et tout ça.
Donc là, ça ne nous a pas coûté d'argent pendant toute cette période, votre boîte de nuit ?
Ça nous a coûté 8 mois sans salaire, tout simplement.
Oui, mais il n'y a pas eu...
Oui, dites-moi.
Il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu de coût fixe ?
Non. Si, on a eu, en fait, l'assurance, qui n'a rien voulu entendre. Mmh. Au niveau de la banque, les TPE n'ont pas voulu nous les enlever, l'allocation des TPE. Au niveau des... Comme nous, on a eu la chance de pouvoir acheter aussi le bâtiment, donc on a fait repousser notre prêt de foncier, mais par contre, il fallait payer quand même ce qu'on appelle les intérêts sur le prêt. Donc ça, on a fait reporter le capital, mais on a payé les intérêts. Donc il y avait des choses qui étaient incompressibles qu'on ne pouvait pas...
Le 9, vous allez rouvrir, et ça c'est quand même la bonne nouvelle, donc les gens vont venir.
Alors écoutez, à l'heure actuelle...
Ils auront le droit de danser ?
Alors oui. À l'heure actuelle, le protocole qui nous est proposé serait de pouvoir rouvrir avec un pass sanitaire. Donc, je ne vous explique pas les modalités, vous les connaissez tous. Par contre, la grosse avancée depuis ce matin, c'est que plus de masques imposés en intérieur, debout comme assis. Avant, il était imposé, maintenant il est recommandé.
Donc personne ne le portera.
Donc ça change beaucoup de choses.
En boîte de nuit, personne ne le portera.
Voilà, il y a un élément que je ne sais pas, c'est qu'au départ, il nous avait annoncé pas plus de 6 personnes par table. Là, je pense aussi que ça a dû évoluer. Et on avait au départ 65% de la jauge et c'est passé à 75% de la jauge. Donc ce qui est mieux.
Et puis l'épidémie est quasiment... elle est à l'arrêt pour le moment. Les chiffres sont très bas.
Complètement. Alors par contre, j'ai quand même autre chose à mentionner qui est quand même vraiment très très important. C'est que nous sommes discothèque ERP de type P. Un ERP est un établissement recevant du public. C'est une lettre qui est affectée à tous les établissements recevant du public. Nous, c'est le type P, salle de danse et salle de jeu. Et il y a les types N en face de nous, qui sont les bars et les restaurants, et notamment ce qu'on appelle les RAM et les BAM, bars ambiance musicale et restaurants ambiance musicale, qui n'ont, eux, pas du tout toutes les contraintes imposées que nous avons à partir du 9 juillet, et qui peuvent faire exactement le même métier que nous.
Non, mais vous avez parfaitement raison. Souvent, on en a parlé de cela. En tout cas, bonne chance, Grégory, pour le 9 juillet.
Ah, merci, Pascal.
Vraiment. Et puis, on espère que les clients seront au rendez-vous. Monique, c'est quoi la fête de la musique pour vous ?
Bonjour, Pascal. La fête de la musique, pour moi, c'est rien. Parce que moi, la fête de la musique, c'est tous les jours de l'année, sauf le 21 juin.
Ah, c'est vraiment, on a eu de la chance de vous appeler. Je vous appellerai tous les jours, sauf le 21 juin, alors, Monique.
Pascal, c'est plus la fête de la musique, c'est la fête du bruit.
Bon, à tout de suite, Monique.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Abba, c'est merveilleux. Vous mettez Abba et tout le monde dans les boîtes de nuit. Vous mettez Abba. Mais les gens se jettent sur la piste. Dancing Queen, c'est la fête de la musique. Monique, est-ce que vous aimez Abba, Monique ?
Pas du tout.
Oh, mais qu'est-ce que vous aimez comme musique ?
La musique classique, vous le savez.
Mais on n'aime pas qu'une... Moi, j'adore la musique classique, mais je n'aime pas que la musique classique.
Je ne vis que pour la musique classique. Hier, vendredi soir, j'étais au théâtre des Champs-Élysées pour écouter le Requiem de Mozart, qui était nul d'ailleurs.
Ah
parce
bon
que entre la messe du Sacre de Napoléon et le Requiem de Mozart, en une heure, c'était plié, ça, c'était pas bien du tout. Hier, j'étais à la Sonnambule, donc toujours au théâtre des Champs-Élysées. Ce soir, je vais à Gavot écouter mon cher Placido.
Bah écoutez, il y a une très belle Tosca en ce moment, paraît-il, à l'Opéra Bastille.
Ah peut-être, oui, mais on ne peut pas être partout non plus. Hein.
Non, je suis d'accord avec vous, mais ce soir, Placido Domingo est à Paris.
Oui, à la salle Gavot.
Bon,
je vous dis pas le prix des places.
C'est, ah bah si, dites-le moi, au contraire, ça m'intéresse, moi.
200 euros.
Ouais, c'est très cher.
Ah ouais, c'est cher.
Ouais. Ça, c'est très, très cher.
Moi, j'ai un copain, bon, je ne vous dirai pas où il travaille, parce que vous le savez. C'est un de vos confrères, mais pas dans la même radio. Et un jour, il m'a dit 30 euros les places à l'opéra, 30 euros, on peut être bien placé. J'ai dit non, on n'est pas bien placé à 30 euros. Non, non.
En même temps, l'important, c'est d'écouter.
Oui, mais enfin, moi, si je paye 30 euros, moi, je veux voir aussi. Hein. Si je vais à l'opéra, je veux voir.
Je veux voir.
Non, mais Pascal, un concert, si vous écoutez, bon. Je veux bien. Mais à l'opéra,
il faut
voir. Ce qui
est étonnant, c'est d'être monomaniaque comme vous êtes. Pourquoi vous n'aimez pas la variété ?
J'ai pas dit que je n'aimais pas la variété. J'aimais Richard Anthony, Alain Barrière, Adamo, Mireille Mathieu. Bon, mais je n'irai pas payer pour aller les entendre, c'est tout.
Ah bah, vous aurez du mal à payer pour voir Alain Barrière, hein, de toute façon, aujourd'hui, si vous le permettez. Parce que dans ceux que vous avez cités, il y avait au moins trois qui étaient décédés. Richard Anthony est décédé, Alain Barrière est décédé, Mireille Mathieu, heureusement, est toujours de ce monde, et Adamo est toujours de ce monde également.
Et Mireille Mathieu aussi.
Mireille Mathieu également. On pourrait écouter d'ailleurs du Adamo un petit peu Tombe la neige ou
Laisse
tes mains sur tes hanches, etc. Bon, donc ce soir, bah, Salle Gaveau. Bon, bah écoutez, c'est bien, Salle Gaveau.
Alors, je suis contente. Hein. Bon. J'y vais avec une amie. Ça va être génial. Hein. Ça vraiment. Sauf que depuis un an, on a été tellement privés. Non, mais moi, la musique classique. Mais je fais ça depuis que je suis toute petite.
Oui, parce que là, vous avez un agenda fourni quand même, parce que Théâtre des Champs-Élysées. Pourquoi vous n'avez pas aimé le Requiem de Mozart ?
Bah, écoutez, d'abord, il a commencé par un thème que Mozart n'a pas écrit apparemment. Moi, écoutez, le Requiem de Mozart, je l'ai chanté, je sais pas combien de fois. Donc, ce thème, bon, je le connaissais pas du tout. Ça c'est très bien. Vous le chantez juste en plus.
Bah oui. Voilà, ça c'est, bah, il le fait bien.
Diezilla, solvete clum, in favilla, teste David cum sibilla.
Ah ouais, vous l'avez chanté. Bon bah ouais, écoutez, on débriefe parce qu'il est tard, Monique. Bonne fête de la musique, Salle Gaveau. Laurent
Merci
Tessier.
Merci beaucoup, au revoir.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Une claque démocratique, un record historique d'abstention pour ce premier tour des régionales et départementales. Et là, mesdames, messieurs, vous m'avez énervé, Pascal.
Pourquoi ils ne sont pas allés voter ? Les gens se plaignent, ils ne vont pas voter.
Eh oui, vous êtes chaud bouillant.
Je vais engueuler les auditeurs.
On le sent bien.
Ça va être la dernière émission.
2 électeurs sur 3 n'ont pas été votés. L'analyse de Gilles.
J'ai une théorie sur l'abstention, en fait. Quand on vous demande 15 fois ce que vous voulez manger, 15 fois on n'écoute pas votre avis, à un moment vous dites, bon bah ok, bah démerde-toi, fais la bouffe et puis on mangera ce qu'il y a.
Bonne image. Parmi les abstentionnistes, les jeunes, plus de 80% ne sont pas déplacés pour aller voter, comme Théo, 21 ans, étudiant en droit.
Je suis pas allé voter. Comme beaucoup de Français, je m'identifie pas à l'offre politique qui est proposée actuellement. Les domaines gérés par les régionales, ça m'intéresse pas non plus.
Mais Pascal, là, vous avez envie de bien vous chauffer. Demandons à notre réalisateur, Greg Caranoni, s'il a été voté.
Je salue Greg Caranoni. Est-ce que je peux vous demander si vous avez voté ?
Vous pouvez me demander si je suis allé voter. Je vous dirai oui.
Bonne réponse pour ne pas énerver notre présentateur, mais Greg a envie de parler d'autre chose aujourd'hui.
En tout cas, la bonne nouvelle du jour, c'est que c'est la fête de la musique.
Mais alors c'est... Non, c'est pas ça.
Ah.
Panem, vous êtes vraiment dans le panem en circenses, quoi, du pain et des jeux. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en est là. Si on ne fait plus d'instruction civique, si on n'apprend plus l'histoire, si on ne montre pas l'importance de la politique, bah écoutez, faisons de la télé-réalité. Faisons que ça, panem en circenses. Le peuple s'amuse. Vous voulez pas être sérieux, rouler en trottinette.
Non mais voilà. Alain, mais attendez, je vais voter, mais en plus je me fais engueuler, voilà, mais c'est pas possible.
Rouler en trottinette, venez en Bermuda.
Réalisateur démarre bien, et c'est vrai que nous ne sommes que lundi.
Il n'y a plus d'efforts.
Mais bien la semaine s'annonce bien.
On comprend, pauvre Greg. Chers amis, aujourd'hui, c'est la fête de...
La musique. C'est la fête de la musique.
Et puis, on a une date pour les boîtes de nuit.
Les boîtes de nuit pourront ouvrir le 9 juillet, donc ça va être bien. Laurent Tessier se prépare déjà.
Ah, les chemises sont déjà sorties et Greg en profite, tiens, pour balancer une petite punchline à Pascal. Un Français sur deux affirme toujours écouter les mêmes chansons.
Ah bah Pascal, c'est plutôt ça, non ?
C'est merveilleux, ça.
Bah, je savais que ça vous plairait.
Attendez, il n'y a pas que ça, mais ça c'est vraiment bien.
Mesdames, messieurs, quittons-nous avec une belle voix.
Forever young.
Ah oui, on n'était pas obligés. Hein. Forever young, mais never chanteur. Hein.
Forever young.
Aïe, aïe, aïe.
Et
une demande en cette journée de la fête de la musique. Cher gérant de grande surface, cher disquaire, sortez, ressortez plutôt le CD de titre de ce tube. Monaco, bah oui, ma mère ne l'a pas trouvé ce week-end. Il ne connaissait pas cette chanson à l'espace culturel d'un grand centre commercial en Loire-Atlantique. Mobilisons-nous. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui parle des abstentionnistes.
Voilà. Flavie Flamand est là, alors je suis très triste et très gai en même temps parce que nous ferons plus ces petits passages d'antenne l'année prochaine puisque j'ai lu la presse ces dernières heures et Flavie va quitter la tranche de 15h30 peut-être de 14h30 même 14h30, 15h30 parce qu'il est 14h30. Ah, raconte, venez nous dire un petit mot. Venez nous dire un petit mot, Flavie.
Bonjour Pascal, parce que, bonjour
alors,
à tous.
Donc, et alors, j'ai lu votre interview. Effectivement, vous partez pour une nouvelle aventure sur RTL.
Oui,
et c'est
je suis
bien
très
comme ça.
Heureuse bah, parce j'imagine. Que je vais effectivement emmener les auditeurs avec moi à 20h désormais. Et c'est une grande joie voilà, de et pouvoir partir à la conquête d'un nouveau territoire.
Est-ce que c'était lié à notre échange de 14h30
Exactement,
que vous avez
c'est
souhaité.
Vous. C'est vous qui m'avez fait fuir, en fait, Pascal.
Vous avez dit à Régis Ravanat, si je pouvais. Alors écoutez, dialoguer à 14h30 avec Pascal, c'est plus possible, donc je voudrais aller
dit,
plus loin.
Je me suis dit à un moment donné, peut-être qu'à 20h, je serai tranquille.
Eh ben,
donc,
je me demande si je vais
non, mais
pas
j'aimerais jouer de cette nouvelle
20.
Aventure. Mais, on est ensemble avec nos auditeurs de 14h30 à 15h30 jusqu'à la fin de la saison, évidemment.
C'est quand la saison, fin de la saison pour vous?
Ah ben, c'est le 2 juillet, c'est 2 aussi juillet. Le jour de mon anniversaire. Oh, vous voyez, ça
non.
fait beaucoup de choses. Mais si, mon petit.
Ah, vous êtes bon, est-ce que sous le signe du cancer.
Est-ce que je vais pouvoir prendre l'antenne à un moment donné?
Non, parce que c'est bien de parler avec vous et puis moi j'aime bien vous poser des questions.
Ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, vous serez à l'heure, à 20h.
Oui,
oui alors ça, je n'aurai... Oui, effectivement, je ne prendrai pas l'antenne avec du retard l'année prochaine. Ouais.
Bon, Flavie, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole.